Le journal vous est présenté par Julie Smul. Bonsoir Julie.
Bonsoir. Il reste une heure aux Espagnols, une heure pour voter. Législative anticipée, on saura dans la soirée si l'extrême droite réalise la percée annoncée. Pour l'instant, c'est la participation qui fait un bond. Nous serons à Madrid dans un instant. Ils ont perdu un œil ou une main. Des manifestants blessés par la police montent un collectif. Ils veulent une grande journée de mobilisation fin mai. À Nantes, une marche pour la paix. Aujourd'hui, une marche contre la guerre des quartiers. On sera dans le cortège. Et puis dans un quart d'heure, nous serons à Rennes pour le journal des sports. Les champions de France sont de retour. La coupe brandie face à la foule et la joie du capitaine Romain Danzé.
Merci à tout le monde. On a tellement souffert. Et on vous la ramène. Voilà, c'est la victoire de tout le monde, de toute une ville, toute une région. Voilà. Merci à tout le monde. Et allez Rennes.
On sera sur place sous la pluie, pluie aussi pour les cyclistes de la Liège-Bastogne-Liège aujourd'hui. Alaphilippe était favori, mais c'est le Danois Fuchs Lang qui l'emporte.
France Inter.
Les bureaux de vote ferment dans une heure maintenant en Espagne. Élections législatives anticipées aujourd'hui, les troisièmes dans le pays en 3 ans et demi. Les Espagnols auraient pu se lasser, c'est plutôt l'inverse. Isabelle Labéry, vous êtes à Madrid, vous suivez ce scrutin pour France Inter. Bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous.
Premier constat, Isabelle, ce soir une participation en hausse pour ces élections.
Oui, hausse exceptionnelle même par rapport au dernier scrutin. 9 points de plus qu'en 2016. À 18h, on était à environ 60% de participation. Donc oui, les Espagnols se sont massivement mobilisés aujourd'hui, mais... pour qui ? Rencontré à la sortie de son bureau de vote ce matin, Pablo était très, très tendu.
Ça fait une semaine qu'on n'a plus de sondage, c'est l'incertitude totale. Moi, j'espère que les socialistes vont gagner, mais je suis très perturbé. J'ai vraiment peur que l'extrême droite finisse par gouverner.
À la faveur de la crise catalane, la formation de Santiago Abascal a su jouer sur la corde nationaliste des Espagnols, comme Marie Carmen, 71 ans, ancienne institutrice, très fière aujourd'hui de voter pour Vox.
Pourquoi il parle d'extrême droite alors qu'on veut juste être espagnol ? Je comprends pas. Ça ne nous fait pas honte à nous. Et de toute façon, tous les partis patriotes, on le vend en poupe en Europe. Il y a bien une raison.
Vox, créé il y a 5 ans, n'avait jusqu'ici aucun représentant au niveau national. Il pourrait obtenir ce soir une trentaine de sièges.
Est-ce que ce parti, du coup, peut vraiment jouer les troubles faits, Isabelle ?
Oui, parce que les socialistes donnés vainqueurs n'auront pas la majorité absolue et parce qu'à droite, on envisage une alliance avec l'extrême droite. En fait, la fin du bipartisme qui a dominé pendant 40 ans la vie politique espagnole crée un appel d'air pour les extrêmes, scénario qui inquiète la journaliste Lucia Abellán.
Ce sont des élections décisives. Bien sûr qu'il y avait des gens en Espagne qui avaient une pensée un peu extrémiste, mais ils étaient comme cachés. Maintenant, ils n'ont plus peur. Et ça, c'est un peu inquiétant. Tout le monde comprend que c'est un moment exceptionnel.
Les tout premiers résultats de ce moment exceptionnel sont attendus vers 21h.
Et ce sera à suivre ce soir sur France Inter avec vous Isabelle Labéry, merci, en direct de Madrid. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou condamne ce soir une attaque qui touche le cœur du peuple juif. Pour Donald Trump, c'est un crime antisémite motivé par la haine. Voilà les mots employés par les deux dirigeants après cette fusillade dans une synagogue à Poway, au sud de la Californie. Une femme est morte, 3 personnes sont blessées. Le tireur de 19 ans a été arrêté. Ce soir, on en sait encore très peu. Sur lui, un peu plus sur les victimes, Loïc Piala.
Laurie Kay priait à la synagogue pour sa mère récemment disparue. Elle s'est jetée entre le tireur et le rabbin pour le protéger et elle a succombé à ses blessures. Après la fusillade, son mari, un médecin, est venu en aide aux victimes. Il s'est évanoui quand il a réalisé que c'est à sa femme qu'il prodiguait un massage cardiaque. Un homme de 34 ans a lui été touché à la jambe alors qu'il mettait plusieurs enfants en sécurité. L'autre blessé est une fille de 8 ans. Ses parents avaient quitté Israël, pensant à la Californie plus sûre. Dans une lettre publiée sur Internet, le suspect explique son dégoût pour les Juifs et cite Jésus-Christ et Hitler parmi ses héros. « Je suis la preuve que n'importe qui peut faire ça », se vante cet étudiant blanc de 19 ans sans passé judiciaire. Il critique également Donald Trump pour son soutien à Israël. La fusillade a eu lieu 6 mois après l'attaque d'une synagogue à Pittsburgh qui avait fait 11 morts. Lors de la veillée organisée samedi soir, un rabbin a expliqué qu'il avait dû rayer les mots « plus jamais ça » de son vocabulaire pour les remplacer par « encore une fois ». À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Plus de 5000 personnes évacuées en urgence la nuit dernière près de Montréal. Une digue a cédé, celle qui protégeait la ville de Saint-Marthe-sur-le-Lac. L'eau est montée d'un coup dans les maisons, parfois jusqu'à 1,50 m. Ça fait plusieurs semaines que l'Est du Canada est touché par de grosses inondations. 8000 habitants évacués en tout et un millier de militaires déployés sur place pour les aider. Au Sri Lanka, la plupart des islamistes radicaux responsables des attentats de dimanche dernier ont été arrêtés. Certains sont morts, précise aujourd'hui le premier ministre sri-lankais. En tout, une centaine d'arrestations depuis une semaine. Et les 8 terroristes qui se sont fait exploser dans des églises et des hôtels de luxe le week-end dernier ont tous été identifiés. La plupart ont fait des études supérieures. Ils viennent de milieux aisés. Deux d'entre eux, des frères, viennent par exemple d'une riche famille d'industriels installée à Colombo. Notre envoyé spécial Sébastien Farcy s'est rendu dans l'une de leurs usines.
C'est un énorme entrepôt en plein air situé dans la banlieue nord-est de Colombo. De gros câbles et des transformateurs électriques jonchent le sol. Cette usine de la famille Ibrahim travaillait le cuivre et c'est sous cette couverture que les deux fils devenus islamistes auraient fabriqué certaines bombes utilisées pour les attentats de dimanche. Dans l'atelier de bois voisin, un des travailleurs se souvient d'hommes distants mais très riches.
Il y a 3 mois, ils ont commencé à construire de nouveaux étages pour leur usine et cela a endommagé notre mur. Dès qu'on leur a signalé, ils se sont tout de suite excusés et ont refait le mur. 2 fois, avec un béton bien meilleur que ce que nous avions. Cela a dû leur coûter des millions.
L'implication de cette famille a choqué tout le Sri Lanka. Le père, Mohamed Ibrahim, est l'un des plus grands exportateurs d'épices du pays, bien introduit dans le milieu économique. Et ses 2 fils ont étudié à l'étranger. Un restaurateur du quartier se souvient d'une famille généreuse et pieuse.
On ne le voyait pas souvent. Pendant le ramadan, il offrait à manger à tout le quartier. C'est bien vu dans l'islam. Il nous aidait un peu, alors qu'est-ce qu'on pouvait dire ?
La police a arrêté plus d'une dizaine de personnes dans ce quartier, mais la population demande maintenant qu'elle enquête sur les possibles protections politiques dont ces riches entrepreneurs ont pu bénéficier. À Colombo, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Après les paroles, on attend souvent les actes. Eh bien, c'est demain que le gouvernement se penche vraiment sur les mesures annoncées par Emmanuel Macron jeudi soir. Une journée de travail organisée, nous dit la majorité, en séminaire. Cyril Gradiani.
On appelle ça mettre en musique. Emmanuel Macron a écrit la partition, l'a détaillée rapidement jeudi lors de sa conférence de presse. Son gouvernement et en premier lieu Édouard Philippe vont désormais devoir la déchiffrer. Le Premier ministre a donc convoqué un séminaire gouvernemental. La totalité de ses ministres est fait plus rare, des cadres de la majorité parlementaire seront conviés pour une après-midi de travail. Emmanuel Macron, qui renouera avec un agenda diplomatique chargé cette semaine, a fixé le cap et il a chargé son Premier ministre d'apporter les précisions sur les chantiers prioritaires. Emploi, transition écologique, transformation des administrations, notamment de la haute fonction publique et décentralisation. Le président a appelé son équipe à agir vite. Les Français veulent des résultats concrets, pas le droit de traîner donc, d'où la volonté d'associer la majorité parlementaire. Et tant pis si ces nouveaux chantiers viennent télescoper l'actuel agenda des 2 assemblées. Les textes dans les tuyaux du Parlement risquent d'être remisés quelque temps. La PMA et la réforme audiovisuelle pourraient en faire les frais.
Voilà pour le calendrier côté majorité. Côté gilets jaunes, vous le savez, les mesures annoncées par le président n'ont pas franchement réussi à calmer la colère. Les gilets jaunes qui étaient moins nombreux mais qui étaient de retour quand même hier dans les rues de toute la France. Des gilets jaunes qui créent aujourd'hui un collectif. Son nom, les Mutilés pour l'exemple. Ils sont 20, tous blessés par la police. Ils dénoncent, je cite, une répression sanglante des forces de l'ordre. Ils appellent à la mobilisation. Le reportage de Benjamin Illy.
Nous avons perdu définitivement un œil, un testicule, une main.
Des cicatrices, des traumatismes.
Nous avons perdu des dents ou l'odorat.
Et le sentiment de révolte partagé par cette 20 de personnes.
Nous sommes les mutilés pour l'exemple.
Depuis le 17 novembre, il y a 22 personnes qui ont perdu définitivement un œil. L'autre chiffre, c'est qu'il y a 5 personnes qui ont eu la main arrachée.
Quel est votre message ?
Il faut arrêter de tirer sur le peuple.
Vanessa Langard, 34 ans, originaire du Val-de-Marne, elle est auxiliaire de vie.
Oui, mais mon vrai métier, c'est vitrailliste, décoratrice sur verre.
C'est fini aujourd'hui ?
Avec un œil qui ne voit pas, c'est compliqué.
Elle a déposé une plainte après ce 15 décembre sur les Champs-Élysées qui lui a valu 1 semaine d'hospitalisation.
J'ai été impactée en fait directement à l'arcade. par des policiers qui sont arrivés sur notre trottoir et qui m'ont tiré à 5 mètres. Je me suis fait tirer dessus par un LBD 40. Tous les médecins disent bien que c'est ça. J'ai eu une grosse hémorragie cérébrale. J'ai eu l'os de l'arcade complètement cassé, un bout qui s'est retourné vers le cerveau. Je réfléchis un peu comme une enfant, je fais plus certaines connexions, voilà. Je peux pas dire que je regrette pas du tout. Je continue à être une gilet jaune, je continue à y croire et je ne peux pas dire que non, j'aurais pas dû y aller.
Vous avez marché le 26 mai ?
Bien sûr.
Le 26 mai, donc, à Paris, une marche des blessés et de leur soutien.
Les jeunes, quel est votre métier ?
Un détenu s'est suicidé dans sa cellule de la prison de Luynes, à côté d'Aix-en-Provence. Un homme à qui l'on avait diagnostiqué de graves problèmes psychiatriques, Marie-Christine Loriol.
Après avoir effectué les trois quarts de sa peine dans un service de psychiatrie, le détenu âgé de 27 ans était dans l'attente d'une nouvelle expertise à la veille de son procès en appel. Mais quand le médecin s'est présenté vendredi à la maison d'arrêt, personne n'aurait été capable de l'informer que son patient était à nouveau à l'hôpital. À son retour en cellule, l'homme a mis fin à ses jours. Une faute de l'administration pénitentiaire, s'indigne son avocat, qui rappelle que son client avait été diagnostiqué schizophrène depuis l'âge de 12 ans. Maître Olivier Cunemasseau au téléphone de Julie Paco.
On est dans un cas tout à fait tragique d'une personne qui est placée sous main de justice. La justice ordonne une expertise psychiatrique. L'administration pénitentiaire est incapable de permettre que cette mesure se déroule. C'est vraiment un cas caricatural, tragique, du drame que l'on vit au quotidien dans les prisons françaises avec un système pénitentiaire plus électoraliste que judiciaire au sens strict du terme.
La responsabilité de l'État est engagée, précise l'avocat, qui envisage de porter plainte au nom de la famille du détenu. Marseille, Marie-Christine Loriol, France Inter.
Une marche entre Vintimille en Italie et Calais, plus de 1200 km à parcourir en solidarité avec tous les migrants qui font cette route dans l'espoir de rejoindre un jour l'Angleterre. Les militants de l'association L'Auberge des Migrants sont partis ce matin. Ils vont se relayer pendant plus d'une semaine. À Nantes, c'est une marche contre la violence qui a rassemblé cet après-midi 200 personnes. Des quartiers de la ville se font la guerre en ce moment. Plusieurs fusillades en quelques jours, un mort et 6 blessés. Le reportage dans le cortège de Pascal Boucherie.
Ils arrivent de tous les quartiers nantais, ceux qui font trop souvent la une des faits divers. Bellevue, les Dervalières, Le Breil, le Chêne des Anglais, Malakoff. Convergence des cortèges en centre-ville et grande satisfaction des organisateurs.
Franchement super, bah on voit le niveau du monde, donc nickel, on est hyper contents. Et, c'est ce que je disais, le message est bien passé sur les réseaux sociaux, donc ça fait son petit chemin et son effet de boule de neige, donc du coup on est hyper contents.
Vêtus de noir, parfois une rose blanche à la main, et un seul message, ne laissons pas la violence tuer l'espoir dans nos quartiers. Sima habite à Beaulieu.
Il y a énormément de personnes qui ont peur, hein, qui entendent des bruits, on entend des coups de fusil. Il faudrait trouver des solutions pour que puissent vivre en paix tous les quartiers, malheureusement.
Entre les rails du tramway et le miroir d'eau, les prises de parole se multiplient et c'est l'espoir qui résonne.
Parce que nous, on y croit. Nous, on a envie d'aider nos jeunes. Nous, on a envie d'aider nos citoyens, nos enfants à devenir de bonnes personnes. Il n'y a plus de race, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de quartier. On parle d'humanité et de cœur. Et tous ensemble, on fera de nos quartiers des beaux quartiers. Parce que c'est ce qu'ils sont en réalité.
Le reportage France Bleu Loire-Océan de Pascal Boucherie pour France Inter. On va fêter la semaine prochaine le 500e anniversaire de la mort du génie Léonard de Vinci. À cette occasion, le Louvre prépare une exposition exceptionnelle. Il faudra attendre un peu, elle ouvrira cette exposition à l'automne. Et grande première, il faudra absolument réserver votre place si vous voulez y assister. Coup d'envoi des inscriptions, attention c'est précis, le 18 juin prochain, Jacqueline Pétrose.
Les réservations sont ouvertes bien plus tôt que pour toute autre exposition. Le Louvre, en effet, va avoir à gérer une affluence très importante. Léonard de Vinci, peintre et inventeur, sur son nom drainent immédiatement des milliers de visiteurs. Et le musée veut à tout prix oublier ce qui s'est passé en 2017 lors de l'exposition des maîtres hollandais et des 12 tableaux de Vermeer. Réservation saturée en quelques heures, file d'attente, jusqu'à 9000 personnes devant la pyramide. Déception bien sûr pour ceux qui n'ont pas obtenu de billets et frustration pour ceux qui, une fois entrés, n'ont pas réussi à voir les tableaux tant la foule est dense. Le Louvre a déjà tiré des leçons de cette exposition en gérant parfaitement l'an dernier l'engouement énorme suscité par l'exposition Géricault, 540 000 visiteurs en 4 mois, soit 7 200 par jour, et tout s'est bien passé. La contrainte est double. Pour des raisons de sécurité, le hall sous la pyramide ne peut accueillir à la fois que 250 personnes et le reste du musée doit rester accessible à tous les visiteurs. Mais le Louvre, en 2 ans, a su parfaitement s'adapter à une énorme affluence, puisque l'an dernier, il a été le musée le plus visité au monde avec plus de 10 millions de personnes.
Les précisions de Jacqueline Pétrose.
Point route avec le château fort de Castelnau en Dordogne, musée de la guerre au Moyen-Âge. La visite en famille dont on se souvient toute sa vie. Animation sur castelnau.com.
Direction le PC Mobilité de Radio France. Bonsoir Pauline Renoir.
Bonsoir.
Il y a 2 accidents en ce moment dans le nord de la France.
Un accident dans l'Aisne sur la 26 dans le sens 3 Calais. Ça se passe à hauteur de Vanduille. La voie de droite est fermée. Un autre accident à Lille sur la 25 en direction de Dunkerque et cela crée 5 km de ralentissement. Il y a des embouteillages dans la vallée du Rhône sur la 7 dans le sens Marseille-Lyon. Demain c'est la rentrée pour les Lyonnais. Comptez 40 minutes depuis Vienne et puis des ralentissements sur la 7 toujours entre Valence et le péage de Vienne-Reventin. Ça freine particulièrement entre Montélimar et L'Auriole sur Drôme. Le retour des vacances se passe mieux en région parisienne. Bison Futé, Voyette Orange, mais le trafic est fluide sur la 13 depuis la Normandie. Aucune difficulté non plus sur la 6 et la 10.
La météo avec Gauthier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
La météo avec Jean-Michel Golinski.
Demain, après les faibles gelées possibles, notamment du centre Val-de-Loire au quart nord-est, les températures de l'après-midi vont partout grimper plus haut qu'aujourd'hui, entre 15 et 17 degrés dans la moitié nord, 18 à 22 sur les régions méridionales, des valeurs qui deviendront encore de plus en plus douces au fil de la semaine. Pour cette journée de lundi, le pourtour méditerranéen va conserver un soleil rayonnant, mais avec toujours pas mal de vent, et possiblement un coup de tonnerre l'après-midi sur la Corse et la Côte d'Azur. Sur le reste du pays, on remarquera le retour d'un temps sec, mais avec beaucoup de grisailles, parfois doublées de brouillard en début de journée. L'évolution sera, dans la plupart des cas, favorable vers l'éclaircie, mais le ciel restera tout de même un peu plus encombré l'après-midi, des Ardennes à l'Alsace, sur l'ouest de la Bretagne et au sud de la Garonne. À noter le maintien du risque marqué d'avalanche sur les Alpes.
19h17 sur France Inter. C'est le journal des sports. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Julie.
Et la fête était à la hauteur de l'attente. La ville de Rennes était en liesse pour célébrer le retour des joueurs du Stade Rennais avec la Coupe de France.
Et oui, un rassemblement monstre dans la ville au moment du retour des joueurs et de la Coupe défilée en bus jusqu'à la mairie. Des scènes que l'on a déjà connues il y a très longtemps dans la capitale bretonne, en 65 et 71, lors des 2 dernières victoires des Rennais en Coupe de France. Et aujourd'hui, on l'a donc remis ça.
Pour le Stade des Rouges et Noirs ! Les joueurs du Stade Rennais Football Club !
Voilà le speaker qui s'égosille devant des dizaines de milliers de personnes. Bonsoir Cédric Guillou. Cédric Guillou qui devait être avec nous en direct de Rennes. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Jean-Pierre.
Voilà, bonsoir Jean-Pierre. Beaucoup de travail en ce moment, mais c'est vraiment la liesse, le mot qu'il fallait utiliser. Malgré la pluie, le public rennais était au rendez-vous aujourd'hui.
Ah oui, une ambiance exceptionnelle, hein, festive durant tout l'après-midi ici à Rennes, sous une pluie continue, hein, vous le disiez, pluie qui n'a pas fait peur aux supporters du Stade Rennais. Ça faisait 48 ans qu'ils attendaient ça, pour ceux qui évidemment avaient pu suivre la finale de 1971. Alors les joueurs se sont d'abord présentés sur l'estrade de l'esplanade de Charles de Gaulle, c'est la plus grande place rennaise. Ils se sont ensuite rendus en bus place de la mairie, près de l'Opéra de Rennes, où ils ont présenté la Coupe de France aux supporters présents. Et les joueurs se sont adressés au public à l'image de Benjamin André, le capitaine.
Merci pour tout, c'est aussi votre coupe. Et voilà, on a rendu fier une ville, fier un club et tous nos supporters qui sont là. On est très très heureux pour vous aussi.
Voilà un moment inoubliable, bien évidemment, pour les joueurs du Stade Rennais, mais aussi pour les supporters des Rouges et Noirs. C'est le cas d'Anthony, qui supporte le Stade Rennais depuis 43 ans.
C'est juste fabuleux. Moi, ça fait 43 ans que j'attends ça. Et je suis allé voir deux finales, deux défaites. Je sais, le club de losers, c'est ce que je pensais également. C'est bête, c'est un rêve pour en tant que supporter qui se réalise. Alors, je sais que ce n'est que du football pour les gens qui n'aiment pas le foot. J'ai dû recevoir, sans exagérer, 60-70 messages. J'ai des vieux amis à moi qui suivent le foot avec moi depuis 40 ans. Et un que je n'ai jamais vu pleurer en 35 ans qui m'a appelé et qui me disait « je pleure ». Et j'ai eu beaucoup de messages en me disant « c'est incroyable, je pleure ». Moi, j'ai pas pleuré parce que je n'y croyais pas. C'est juste génial. La communion, ça fait penser à la Coupe du Monde, mais là c'est plus restreint, donc c'est plus joyeux pour les Rennais, on va dire.
Voilà la fête qui va sans doute continuer hein, ce soir pour beaucoup de supporters du Stade Rennais. Peut-être pas Jean-Pierre hein, pour les joueurs qui ont fait nuit blanche et qui ont tous besoin de sommeil. Mais la Coupe de France va être présentée au public du Roizen Park mercredi soir à l'occasion du match Rennes-Monaco. C'est un match en retard de la 34e journée de Ligue 1.
Et le Paris Saint-Germain, l'autre finaliste, jouera d'ailleurs mardi à Montpellier. Alors vous avez parlé de la joie des joueurs, des supporters. Il y a un homme qui parle très très peu mais qui s'est exprimé aujourd'hui au téléphone de Jacques Vendroux. C'est François Pinault, l'actionnaire principal, le propriétaire du Stade Rennais depuis 1998, d'ailleurs sponsor avant cette époque-là. François Pinault, l'homme d'affaires bien connu, qui n'a pas caché sa très profonde joie au micro de Jacques Vendroux tout à l'heure.
Les Bretons sont heureux, les Rennais sont heureux. C'est une grande nouvelle pour la Bretagne. La Bretagne est une région considérée comme rude. Les Bretons sont quelquefois oubliés. Il y a des gens qui sont amoureux du football. C'est une terre de football et je suis très heureux pour eux et tout va bien, en tout cas aujourd'hui.
C'est une victoire qui vous touche aussi personnellement, ce qui est normal d'ailleurs.
Bien sûr, ça a mis 20 ans pour avoir ce premier succès important et ça me touche bien sûr. Parce que ça a été une longue aventure, beaucoup de ténacité, beaucoup de déception, beaucoup de joie aussi. Et puis, bon, la ténacité de pays, les Bretons, ça ne baisse pas les bras. Je n'aime pas baisser les bras, on ne les a pas baissés. Et tout va bien. Et mon fils a pris, comme vous le savez, le relais depuis un an, avec succès, plus que des succès que j'ai pu avoir les années précédentes. Mais le club est là, en forme, et j'espère qu'on pourra aller plus loin, que ça pourra durer.
François Pinault, donc, qui s'exprime très rarement, mais là, ça valait le coup, Julie.
Exact.
Victoire de Rennes en Coupe de France après donc 65-71. Il y aura 2019.
Et pendant ce temps-là, forcément, Jean-Pierre, le PSG, lui, continue de vivre une fin de saison difficile.
Éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, après avoir mené 2-0, battu au tir au but en Coupe de France en finale par Rennes. La défaite de trop, qui va à coup sûr, Fanny Lechevestrier, entraîner des prochains jours très agités à Paris, mais aussi peut-être au Qatar, où sont les propriétaires du club, des dirigeants qui ne peuvent se satisfaire du seul titre de champion de France cette année.
Impossible hein, d'imaginer Doha ne pas réagir après la pire saison du PSG depuis 2012, loin très loin d'un club qui dépense sans compter pour un unique objectif, remporter la Ligue des Champions et faire briller le Qatar à travers le monde. Alors la question n'est pas de savoir s'il y aura des chambardements, mais plutôt qui va payer ce fiasco. L'entraîneur Thomas Tuchel, arrivé cet été et qui venait de prolonger son contrat, mais qui ces dernières semaines s'est montré irritable et nerveux. Le directeur sportif Entero Enrique, dont la gestion du cas Rabiot mais aussi du recrutement est très critiquée. Ou bien le président Nasser Al-Khelaïfi, à l'origine de l'aventure parisienne, mais qui a du mal à lui donner un nouveau souffle et à s'imposer comme le patron. Les têtes devraient aussi sauter côté joueurs. Si Mbappé et Neymar sont intouchables, Buffon, Alves ou Thiago Silva sont plus discutés, incapables d'imposer une discipline à leurs coéquipiers. Paris devra aussi s'interroger sur ses blessures à foison et cette fébrilité incroyable qui s'empare de ses stars dès les grands rendez-vous venus.
Les précisions de Fanny Lechevestrier. Et donc, Coupe de France oblige, et bien l'essentiel des matchs de la 34e journée de Ligue 1, ils se sont joués aujourd'hui, Jean-Pierre.
Et oui, et l'un d'entre eux vient de se terminer. Saint-Etienne a battu Toulouse 2-0. Saint-Etienne, plus que jamais 4e, à seulement 3 points de l'Olympique Lyonnais, qui pour l'instant occupe la 3e place, qualificative pour la Ligue des Champions. À 15h, il y avait également 5 matchs. Belle victoire de Lille, 2e face à Nîmes, 5-0. Caen bat Dijon 1-0 et se positionne en barragiste ce soir. Nice a étrié Guingamp 3-0, plus que jamais dernier du championnat. Angers-Reims, Saint-Partout et Amiens-Strasbourg 0-0. Amiens, où pour la première fois dans l'histoire du foot français, Stéphanie Frappard, donc une femme, a dirigé un match comme arbitre principal sur ce terrain de Ligue 1. Et pour sa première, Stéphanie Frappard a signé une prestation exemplaire, Cédric Langrotte.
4 cartons jaunes et de nombreux coups de sifflet dans un match terne. À l'heure du bilan, voilà ce qu'on retiendra de la première d'une femme comme arbitre en Ligue 1. Stéphanie Frappard, accueillie comme il se doit par le public amiénois. Et cette petite banderole, bienvenue à la licorne, vive les femmes dans le foot.
Je pense que j'ai très bien été accueillie par les joueurs, par le club, par les dirigeants. Donc voilà, c'était un beau match de foot et je pense que les joueurs ont accepté mon arbitrage. Donc L'essentiel était là aujourd'hui.
Tantôt avec le sourire, tantôt plus directive, la francilienne de 35 ans a en effet parfaitement su se faire respecter. Peu de contestation, il faut dire qu'elle avait déjà dirigé les deux équipes en Ligue 2 et en National. Ça n'était donc pas une découverte, comme le confirme le gardien amiénois Régis Gürtner.
C'est un match de Ligue 1 avec voilà, une arbitre de Ligue 1. Donc voilà, nous, ça n'a pas changé notre façon de faire ou de dire les choses. Ça ne changera rien à l'avenir s'il y a plus de femmes dans l'arbitre. Ça sera pareil.
Et si tout le monde s'accorde à saluer la performance de Stéphanie Frappard cet après-midi, seul l'attaquant strasbourgeois Samuel Grancy reconnaît que son comportement à lui était un peu différent.
C'est sa première, on ne sait jamais. Voilà, on savait qu'il ne fallait pas trop contester, il ne fallait pas trop parler. Je pense que voilà, c'est chose faite aussi et chacun fait son boulot.
Stéphanie Frappard va maintenant pouvoir se mettre dans sa bulle. Son prochain défi, la Coupe du Monde féminine, à partir du mois de juin. Amiens, Cédric Langrotte, France Inter.
Et je vous rappelle la dernière affiche ce soir à 21h. Marseille reçoit Nantes et Marseillais 5e peuvent se rapprocher en cas de victoire à 2 points du 4e. L'AS Saint-Etienne qui s'est donc imposé aujourd'hui. Le foot côté féminin, les Lyonnaises sont en finale de la Ligue des Champions pour la 4e fois consécutive. Elles visent même un 4e titre consécutif. C'est fait. À l'aller, elles avaient battu Chelsea 2-1 à domicile. Elles ont obtenu un nul 1 partout au match retour avec un but de Jenny Le Sommer. Elles retrouveront le 18 mai le FC Barcelone cette équipe qui jouera pour la première fois en finale.
Et le vélo avec la doyenne des classiques cyclistes, Liège-Bastogne-Liège, c'était aujourd'hui, c'était sous la pluie et dans le froid.
Et c'est le Danois Jakob Fuglsang, 34 ans, qui a remporté cette classique devant l'Italien Formolo et l'Allemand Schachmann. Ultra favori, Julien Alaphilippe est resté impuissant, Fabrice Rigobert, dans une course qui s'est courue sous la pluie et dans le froid une grande partie de l'épreuve.
Oui, après son succès magistral il y a un mois sur Milan-San Remo, il était l'ultra favori Julien Alaphilippe, mais à 26 ans, il n'a plus rivalisé avec le Danois Jakob Fuglsang, qu'il avait dominé mercredi au sommet du mur de Huy dans le cadre de la Flèche Wallonne. Son équipe, la surpuissante formation belge de Koenig Quickstep, avait pourtant réussi à maîtriser la première partie de ce Liège-Bastogne-Liège.
Peut-être qu'on a pris les choses en main un petit peu trop. On n'avait pas la pression aujourd'hui, on n'était pas obligé de rouler. On l'a fait parce que c'est notre mentalité. On avait une équipe très forte. C'était mieux avec les conditions météo d'être à l'avant pour éviter les bordures et les chutes. Mais à la fin du compte, pas beaucoup récompensé à la fin, mais c'est comme ça. Moi, j'ai donné le maximum et c'est les jambes. Donc à partir de là, tout le monde me voyait gagnant. Même moi, j'aurais aimé gagner. Mais à la fin, c'est le plus fort qui a gagné aujourd'hui.
Julien Alaphilippe, tout s'est joué dans l'ultime difficulté. Comme attendu, sur les pentes de la côte de la Roche-aux-Faucons, dans cette journée froide, pluvieuse, c'est là où Julien Alaphilippe, le visage marqué après sa 16e place aujourd'hui, est resté en panne, tout comme Romain Bardet, 21e. Seul le grimpeur breton David Godu, 22e, ans seulement a pu se glisser dans l'ultime groupe de contre avec l'Italien Nibali ou encore l'Allemand Schachmann, 3e aujourd'hui, pour finir presque à bout de force à cette 6e place. David Godu.
Qu'on a donné à 100% et que dans le sprint on se rate pas sur la selle, c'est qu'on peut plus, donc il n'y a pas de regret. J'ai frigorifié à la limite de l'hypothermie au bout de 20 bornes. J'étais à la limite de l'hypothermie, j'ai dit voilà, ça va être compliqué de finir aujourd'hui. Et finalement, alors, se retrouver à 3 dans le final avant la Roche-aux-Faucons, c'est sûr que c'est beau, ça donne envie. C'était vraiment une belle journée.
Une 6e place pleine d'espoir pour le coureur de Marc Madiou, une chance française de plus de mettre un jour un terme à la longue attente depuis le dernier succès tricolore sur Liège-Bastogne-Liège. Celui de Bernard Hinault. Ça fera 40 ans l'année prochaine. Le froid, la pluie, alliés à la distance, à la répétition des côtes, ont contrarié de nombreux plans aujourd'hui.
Merci Fabrice Rigobert sur Liège-Bastogne-Liège.
On parle rugby maintenant avec d'abord cette confirmation. Fabien Galthié sera bien le sélectionneur du 15 de France en novembre prochain.
Le président de la fédération l'a confirmé dans les colonnes de la presse quotidienne. Le Berry Républicain, Fabien Galthié, prendra la succession de Jacques Brunel juste après la Coupe du Monde en novembre. Il indique également que Raphaël Ibanez est pressenti pour le poste de manager des Bleus, mais cela reste à confirmer comme pour la composition du staff.
Et puis sur les terrains de rugby, on joue la 23e journée du top 14.
Oui, 2 matchs aujourd'hui. Toulon a battu Bordeaux 45-17, victoire importante pour les Toulonnais. Et puis le Stade français a été battu par Clermont 41-25 à domicile. Victoire de Clermont importante pour cette équipe de haut tableau. Mais le Stade français dit peut-être adieu à une qualification pour la phase finale du top 14, Antoine Martin.
La marche était trop haute pour le Stade français face au deuxième du top 14, Clermont. 5e défaite de la saison à domicile. Le revers de trop pour le groupe d'Heineck et Meyer. Paris se devait de l'emporter pour suivre le rythme effréné des 6 premiers du classement. Pourtant, les soldats roses menaient 13-0 grâce à un essai de Bonfils et à la botte parfaite de Jules Pisson dans ce match. Mais au retour des vestiaires, l'ASM, déjà en mode phase finale, enclenche la deuxième. Doublé de Nakalevu, essai d'Ouloudja et Falgou, sans faute au pied de l'Edlo pour prendre le large. Les Auvergnats assurent leur qualification avec ce succès bonifié. Ils sécurisent quasiment leur deuxième place, synonyme de qualification directe pour les demi-finales. Neuvième la saison dernière, Clermont revient au plus haut niveau. Quant aux Parisiens, ils se dirigent vers une nouvelle fin de saison sans phase finale. Victoire de Clermont 41-25 face au Stade Français.
Merci Antoine Martin et on rappelle que Toulouse est déjà qualifiée pour la demi-finale, c'est sûr, on le sait depuis hier. La Formule 1 doublée Mercedes au Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est à Bakou et c'est le quatrième doublé en quatre courses depuis le début de saison. Jamais un meilleur début de saison n'avait été observé chez Mercedes. Le monégasque Charles Leclerc qui a mené une partie de la course, hein, finit cinquième sur Ferrari. La seule Renault à l'arrivée, c'est celle de l'Allemand Nico Hülkenberg qui termine 14e. Les deux Français Pierre Gasly et Romain Grosjean ont abandonné sur casse mécanique et puis le rallye d'Argentine, victoire du Belge Thierry Neuville comme au Tour de Corse il y a quelques jours. Et Sébastien Ogier termine troisième dans ce rallye disputé sur terre.